Merci de poursuivre avec nous cette antenne. À vous qui venez de nous rejoindre, nous parlons des Congolais de l'étranger à présent et nous recevons dans ces studios Monsieur Joe Sekimonyo, Congolais qui vit à l'étranger depuis 21 ans. Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous vous portez bien, j'espère.
Oh, je sais. Je suis encore en vie.
Alors, vous êtes parti du pays, je le disais tout à l'heure, depuis 21 ans et votre première destination était Floride. Vous êtes arrivé là-bas pour raison d'études et après, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a plein de coïncidences qui est arrivé. Le mauvais, c'est la guerre de l'entre de l'Aftenel qui nous a forcé à repenser ce qu'on était, quoi. On est devenu Congolais soudainement et même le Mobutiste, c'était quoi? C'était qui Kabila? Le nouveau système. Et de loin, c'était plus effrayant, plus triste, plus frustrant.
Une crise d'identité.
Une crise d'identité, une crise personnelle, parce que vous avez les nouvelles de loin. On doit se rappeler, en 96, il n'y avait pas vraiment Google, il n'y avait pas WhatsApp. Alors, on lisait les nouvelles à compte-gouttes, quoi. Les rumeurs pouvaient vous rendre fou. Mais avec le temps, il y a une autre réalité, et que je viens d'un monde francophone, et j'allais dans un monde
anglophone,
où le système même social est totalement différent, les relations entre les individus. Je viens du Congo, on est presque à 100% noir. On se retrouve dans un monde où, pour la première fois, on se rend compte qu'on est noir. On est vraiment noir. Je suis noir, mais aussi à Kinshasa, personne ne se balade dans un bus ou un grand SUV et vous appelle nègre. C'est pareil dans les années 70, 60, mais on a grandi dans les années 80. Alors, quand on va dans un pays, en 96, 97, vous allez en boîte, vous sortez, quelqu'un vous crie dessus, nègre, ça vous gêne pas, jusqu'à ce que vous compreniez vraiment ce qu'il veut dire. Ça prend du temps.
Et malgré tout ça, vous avez quand même pu faire vos études en comptabilité.
Ouais. Et il y a beaucoup plus de coïncidences qui arrivaient avec. Après ça, il y a un blanc que j'ai rencontré qui trouvait que j'étais intéressant, comme je parle du monde, et qui a dit que je travaille pour l'État, et comme j'ai fait les maths physiques, la biochimie. Alors ça m'a permis de comprendre le logiciel Microsoft du temps. Il suffisait de faire un fichier d'Excel, vous étiez programmeur, pendant que le département des revenus en Floride voulait se transformer, passer du papier crayon à utiliser cette machine, le computer. Qu'est-ce qui... Et comme je pouvais voir Excel Access, comment on pouvait mettre les formules pour calculer tout à cause des maths, ça fait que chaque département me cherchait et pour m'avoir on m'a donné une promotion. Parce que c'est le travail de l'État, on ne pouvait pas me donner un salaire élevé. Et c'est comme ça que très vite, en 2 ans, je suis devenu secrétaire fiscal ou
analyste.
Analyste gouvernement, analyste, qui est un boulot, qui est un titre vague. Ça veut dire, vous analysez tout et rien.
Vous analysez tout et rien, et ouais. Je suppose ce n'est pas facilement qu'on y accède, donc à ce poste-là. Et autour de vous, vous aviez des gens des différentes nationalités, j'imagine, et même des Américains aussi, qui voyaient quelqu'un d'une autre nationalité venir et travailler. Comment les gens s'est comportés autour de vous?
En fait, de plus, vous avez la promotion, vous êtes dans une situation de pouvoir. Je suis venu à un niveau de... J'étais noir, comme tout le monde, et je suis devenu un noir qui n'est pas de là, et puis africain, et puis congolais. Parce que vous allez, les Africains se mettent ensemble, et quand vous avez une nouvelle promotion, vous devenez congolais, quoi. C'est la première fois que j'ai connu que même les noirs, entre eux, pouvaient devenir racistes.
Comment vous avez quitté ces postes?
Ces postes-là, il y a un phénomène. J'arrive à Kinshasa, gouvernement analyste, je connais tout et rien, le petit savant, je fais des programmes, je fais le budget de l'État, je vais dans la réunion, je peux écrire et tout, et je suis frustré. Je suis frustré parce que je viens à Kin, c'était horrible. Je suis venu à Kin, je crois 2002, c'était vraiment horrible. Qu'est-ce que j'ai vu? Parler quinois, mais d'où je venais? Je viens des États-Unis, vous trouvez, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau. Et je me retrouve en rentrant à l'aéroport, je rencontre un Rwandais, on a une discussion. C'était ce que j'appelle dans ma vie le Waterloo, la bataille. Je ne savais pas répondre aux questions. Je pensais que je savais répondre aux questions sociales parce que je peux faire le programming, faire une compagnie plus efficiente. Mais ça ne veut pas dire que j'avais compris comment résoudre le problème social. Et je rentre à mon boulot. Après, il m'avait promis que nous, le Congolais, on parle beaucoup, on ne fait rien. Et je regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il avait convaincu à Starbucks d'acheter le café au prix
international.
International qui fait des revenus, qui parle en revenus. Et pour ça, je dis, je me suis levé, je veux voir mon patron. Je dis, oh, c'est fini, quoi, je pense, je viens plus. Il me dit, t'es malade, tu as un problème. Je dis, non, je crois, c'est. J'ai tellement senti que ma vie n'avait pas de sens.
Mm-hmm.
Je vais dans un meeting pour te parler d'un autre meeting à laquelle on prévoit un meeting. On n'explique même pas, on parle de l'autre meeting qu'on mm-hmm. va se voir et qui va prendre les notes. Mm-hmm. Et puis c'est toute la journée et vous vous dites, j'étais dans un meeting, quoi. On a pris des décisions. Mais ce jour-là, c'est un clic. Ça m'a dit, je devais rentrer et comprendre le monde et si je pouvais un jour répondre aux problèmes congolais. Et ça, c'était le début d'un voyage. Mais comme on dit toujours, certains voyages, vous vous intéressez là où vous vous imaginez pas. Parce que mon monde, ma vue à ce moment-là était petit. J'ai fait encore de la comptabilité. Après, je me suis rendu compte que c'était pas ça. J'ai fait les finances. Le Congo. Je viens au Congo, il n'y a pas de stock market. Je me dis, mais c'est pas ça. J'ai fait le management. Bon, c'est une façon de leadership. Mais le Congo, non, le management, c'est un modèle indien. Le chef des esclaves, quoi. Quand vous avez un master management, ça veut dire que vous pouvez entraîner quelqu'un pour être le chef des esclaves. Comment faire que les individus soient plus productifs? Et quand je dis esclaves, c'est pour être tellement clair. Et c'est ça le modèle indien. Aujourd'hui, en Inde, vous avez, je crois, un pauvre sur 8 du monde vit en Inde. Alors, c'était pas ça. Et j'ai fait l'économie. Je me suis dit, non, je dois être un bon Africain, quoi. Je dois être économiste. Et je viens au Congo, je suis déçu pour des raisons personnelles. Je fais la politique économique. Et en fait, quand j'ai écrit un livre, parce que j'avais tellement de problèmes dans mon département. C'est pour cela, ce livre-là, c'est Castaway for This Reason. Chasser du groupe pour ces raisons.
Vous avez résolu d'écrire, de transmettre le message en écrivant.
C'est comme si c'était un moyen de me défouler. J'avais tellement des idées, j'écrivais dans le bus, j'écrivais partout, j'écrivais. Et je m'en foutais si personne n'allait le lire. Mais je devais résoudre le problème pour dire aux gens, il y a tellement de notions qu'on apprend le jeune, surtout d'économie, qu'on ne parle pas de l'histoire, les fondations, pourquoi on fait ce qu'on fait. Par exemple, la plus grande idée en économie, c'est que l'être humain, le caractère humain est fixe. Si je vous donne 10 dollars chaque jour, vous allez acheter du pain. Et c'est connu aujourd'hui, non, l'être humain n'est pas fixe. Si l'être humain n'est pas fixe, le caractère humain n'est pas fixe, c'est le X et Y, l'offre et la demande, ça marche pas. Parce que pour faire une graphe, il doit avoir une certaine stabilité. Et c'est comme ça que de plus j'ai appris, de plus je parlais, et je me suis dit non, il faut que j'en parle plus.
Et vous avez continué comme ça à écrire jusqu'à atteindre 6 livres aujourd'hui.
Oui, j'ai 2 livres qui sortent l'année prochaine, en anglais et en français. Mm-hmm. Parce que j'ai compris que le français, c'est un langage très pauvre, quoi, aujourd'hui dans le monde scientifique. Mais comme on s'entête à parler en français dans notre pays, pourquoi pas transmettre mon message aussi en français pour mes confrères.
Mais vous n'écrivez pas la même chose, hein, parce que le début, le déclic était autre. Mais est-ce que vous êtes resté dans... C'est que vous avez écrit pour la première fois, vous évoluez dans la réflexion.
Oui, parce que on évolue avec le temps, quoi, c'est forcé. Mais aussi les questions viennent. Quand j'ai fait ma présentation, je croyais que quand j'écris le livre, c'est tellement clair. C'est l'idée, c'est ça, c'est clair. Et puis j'arrive, on pose une question, je dis, ouais, je me rends compte que je dois expliquer ce que j'avais expliqué. Mais mon autre livre qui doit sortir en 2020, c'est autre chose. Ça, c'est Insomnia.
Insomnie, pourquoi?
Parce que je vois partout au monde, il y a certaines histoires qui arrivent, que les injustices sociales. Par exemple, aujourd'hui, les Occidentaux, quand ils parlent des inégalités, c'est pas les injustices, quoi. C'est la disparité. Je dis aux gens, mais les phénomènes, les conséquences de la colonisation ne créent pas une disparité, une injustice. S'il y a deux personnes, un fait 2 mètres, l'autre fait 1 mètre. Et c'est une disparité, c'est ok, on ne peut pas être tous les mêmes. Mais si c'est démontré qu'on prend la bouffe de l'un qu'on a donné à l'autre pour grandir très vite, ça c'est une injustice. Et si vous allez en Bolivie, les riches sont élancés, les pauvres sont courts. À cause de ce qu'ils mangent. Les riches ont tendance à être plus beaux, plus créatifs, plus vifs. Et les pauvres ne le sont pas. C'est pas à cause de la disparité physiologique. Parce qu'ils viennent de la même, des mêmes tribus, des mêmes souches. Et c'est prouvé, l'accès.
Vous êtes tombé amoureux, hein, de l'écriture.
Ouais. Je suis comme on dit, je dis, je suis comme un chien qui a léché le sang, il peut pas s'arrêter.
Donc vous y allez, vous écrivez, vous continuez.
J'écris tout le temps. J'écris sur mon pantalon, j'écris parce que nous deux on peut regarder le même tableau. Vous vous admirez, moi je pose des questions.
Quand vous avez commencé à écrire, vous le disiez tout à l'heure, et puis il y avait un problème de nom.
C'est Sekimoni Mutabazi. Sekimoni, c'est mon nom de famille. Mutabazi, c'est post-nom, je
crois. Post-nom.
Post-nom. Alors, mon publicateur a dit non, ça ne va pas marcher, c'est trop africain. Et personne ne saura que vous ne parlez pas de l'Afrique. Vous parlez d'un sentiment global, mondial. Et je n'y croyais pas, quoi. Je n'y croyais pas. Ça n'a pas marché, mes livres. J'ai republié le même livre. On a décidé, c'est Joe qui est mon... Prénom. Et il a dit, non, on ne peut pas mettre Mutabazi, on doit mettre M. Parce que Mutabazi, c'est un peu trop africain. C'est qui mange, ça fait un peu japonais. Je me suis dit, bon, je n'ai rien à perdre. Tant que vous me payez mon argent, et ça a marché.
Et selon vous, pourquoi on ne lit pas trop les livres d'Africains?
À cause des Africains. Ce n'est pas l'Occident qui ne veut pas lire les livres africains. C'est les Africains qui disent aux Occidentaux, dans leur façon de parler des autres Africains, des tiers-mondistes. Par exemple, je vais aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un me dit une citation, c'est Jean-Paul Sartre, c'est Descartes, c'est joué au petit français. On n'évolue pas, on ne met pas nos propres pensées en valeur. Quand on parle de Adam Smith, je dis aux gens, il parle de Karl Marx, mais le prédécesseur de ses idées, c'est Abni Khaldun, qui était tunisien. Il est africain. C'est lui qui avait dit qu'il pensait qu'on devait créer une science pour parler du commerce, comment les gens s'est changé. Et même aujourd'hui, je peux vous dire, quand je me présente ici, je dis j'écris un livre, on me demande, oh, tu écris des livres de romans. Ou je dis non, j'écris des livres sur la politique économique, on me dit, oh c'est sur le Congo, peut-être on pense j'écris sur le foufou, qui n'est pas mal. Mais je me dis, alors je viens au Congo, je parle aux gens pour leur donner la permission d'être comme moi. J'ai grandi ici, j'ai fait Kasangoulou, j'étais Alpha Giri, il n'y a rien de vraiment spécial. Mais la différence est que je me suis donné la permission d'avoir une conscience et parler grand.
Et après, qu'est-ce que vous pensez faire? Parce que déjà, dans vos livres, vous ne parlez pas du Congo, en fait. Vous ne mettez pas en exergue le Congo ou les situations au Congo. Est-ce que vous avez un projet pour le pays
Oui, je ne parle pas du Congo parce que le Congo, c'est la Colombie, c'est le Burma, c'est le même problème. Vous vous retrouvez dans le même taudis. La couleur de peau, c'est la différence. Et il y a certains miracles qui se produisent ailleurs qui peuvent se reproduire au Congo. On doit regarder le monde. Deuxièmement, les gens qui font l'argent aujourd'hui, c'est ceux qui parlent du futur global. On parle de comment fixer l'environnement, on doit parler global pour fixer nos problèmes congolais. Moi, je dis tout simplement, on doit devenir humain. On doit arriver à un niveau de créer une nouvelle génération qui ne sera pas congolaise. Elle sera congolaise culturellement, d'identité, mais elle sera une génération humaine. Et quand je regarde le Congo, je dis, il y a un grand problème. Le discours que je fais ici, je ne le fais pas ailleurs. Parce que le Congo, on a un problème de débat, la qualité du débat, la qualité de l'élite. Et quand je parle de l'élite, je dis, c'est le pouvoir, l'opposition, la presse que je condamne tout le temps, qui n'élève pas le niveau du débat. Et les églises, tout ça, c'est cette élite qui a une certaine bassesse dans la façon dont ils développent leurs idées. Et c'est prouvé parce qu'ils prennent le facile. Ils parlent de politique. C'est facile de parler politique, mais c'est pas facile de parler de la politique économique. Quelle est la relation? Vous allez en France, Macron a un problème parce qu'il veut changer le code de travail. Ça, c'est politique économique. Vous allez dans le pays, Donald Trump, il peut être raciste, mais quand il faut parler des taxes pour les riches, la santé publique, Obamacare ou pas, ça ce sont les grandes discussions. Mais si je dis toujours au Congo, qui pour certaines personnes n'y croient pas, que les femmes qui accouchent, si vous n'avez pas d'argent, on vous arrête. Mais j'ai dit l'autre fois, j'étais écœuré parce que je suis congolais, j'ai un passeport congolais, et je vois, ne touchez pas mon passeport. J'ai dit, c'était quoi? C'est un mouvement, parce que le passeport devait être élevé. J'ai dit, mais ça c'est un problème de l'élite. Pourquoi on marche? On marche pas pour la femme qui est arrêtée parce qu'elle peut pas payer. Pourquoi on marche pas parce que le taux de chômage entre les jeunes est tellement élevé? Pourquoi il n'y a pas une réaction pour quand on parle de professeurs qui sortent avec les étudiantes? Mais tout le monde, on parle d'un problème d'élite, de passeport. Montre-moi le même courage.
Quand il s'agit d'autres questions.
D'autres questions. Il y a certains qui ont des passeports qui vont nulle part. C'est un problème d'élite. On est prêt à défendre une élite au lieu de prendre ce même courage et défendre les sans-voix.
Vous pensez que vous n'en parlez pas parce que ça ne pourra jamais changer?
Non, j'en parle au Congo. Mais je me dis, il y a un requirement. Il y a ce qui doit commencer. Je commence à dire, on doit élever le niveau du débat. Mm-hmm. Il y a l'élite qui existe toujours, qui est plein de, je l'appelle, pygmées intellectuels, émotionnels. Alors, il faut avoir une contre-élite. Moi, je me vois à contre-élite parce que j'attaque l'élite. Et je vous dis pourquoi j'attaque l'élite. Je pose des questions. Aujourd'hui, on dit non, si vous venez au Congo, c'est pour avoir le pouvoir. Vous dites aux gens, je veux faire un exposé dans une école. On vous dit, ah, c'est pour une campagne, qu'est-ce qu'il veut? On ne comprend pas que l'université, c'est un milieu où il faut exposer les étudiants à n'importe quelle philosophie, façon de penser. Et c'est ça le rôle de la contre-élite, de choquer, d'attaquer, de pointer. C'est pas l'opposition. L'opposition dit non, oui, non, oui. Mais c'est à nous, à certains comme nous, et tout le monde qui voudrait l'être, de se dire on n'est pas opposant. On attaque l'élite pour dire la fondation de vos débats, c'est tellement terre à terre. Vous parlez de politique au lieu de parler de politique économique. Et si vous voulez une formule d'économie, de politique économique, je peux vous la faire. Vous parlez des rebelles et vous ne parlez pas du problème de... On a une crise... de santé, c'est pour ça qu'on a plein de rebelles, on a des crises sociales. Quelqu'un m'a posé la question, m'a montré une femme qui a été violée. On m'a dit que je n'étais pas sensible, parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'elle faisait dans le champ? Mais il n'avait pas compris la question. J'ai dit, aujourd'hui, avec la technologie, il y a le tracteur qui fait ça. Elle ne devait pas être dans le champ. On doit...
Mais c'est aussi un problème de développement. Les tracteurs, oui, mais si la femme se retrouve dans un coin qui n'est pas assez développé,
ça veut dire
où il n'y a pas de tracteurs, où elle doit elle-même le faire avec ses mains, et donc elle doit se retrouver au champ.
Non, elle ne doit pas. Si elle se retrouve dans le champ, c'est le problème de l'élite, la discussion qu'on pose. Par exemple, aujourd'hui, vous ne parlez pas de la femme et dire non, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter le viol? Quel est le problème social, psychologique, qui font que les deux sont des victimes? La personne qui viole et la personne qui est violée, aujourd'hui, c'est, les deux sont des victimes.
Donc, vous voulez en même temps attaquer la cause,
oui,
de tout ça. Pourquoi la personne s'est retrouvée en tel endroit? Pourquoi il y a telle situation?
Oui.
Et après, vous voyez aussi la situation qui est arrivée, donc tous les deux.
Tous les deux. Et je dis que la femme qui est violée, vraiment, ça me fait de la peine. Mais tant que je vais regarder le monde dans ce petit microscope, c'est pleurer, on ne va rien changer. Le Congo est ouvert, est tellement ouvert au monde. Mais le problème que le Congo doit comprendre, je dis aux gens, le futur du monde sera écrit par le Congo, avec ou sans le Congolais. Et pour que le Congolais participe, il ne doit plus parler du présent, il doit parler du futur. On doit se dire, ben aujourd'hui, on doit changer le système d'éducation. Pour faire quoi? Est-ce qu'on veut plus de technologie? Qu'est-ce qu'on veut faire quand on change? Il y a un des premiers ministres qui avait déclaré les soins de santé des femmes gratuites pour l'accouchement. Mais il parlait du présent. Il n'a pas pensé d'où viendra l'argent. Ces genres de programmes prennent le temps. On doit dire, on va augmenter certaines taxes ou on va liquider... Et on en débat. Peut-être que ce n'est pas le problème, c'est pas une priorité pour la majorité des personnes. Mais on doit en débattre. Quand on dit les frais gratuits pour l'enseignement primaire, du 1, d'où viendra l'argent? Quelqu'un doit financer. De 2, pour faire quoi? Si on ne veut rien faire, il faut laisser comme tel, quoi. Mais si on veut améliorer, il faut penser que ça va nous coûter. Et c'est quoi par définition, avec les détails, où on veut aller?
Monsieur Dio Sekimonyo, je rappelle que vous êtes Congolais, mais vous vivez à l'étranger depuis 21 ans.
Ouais.
Vous avez d'abord appris la comptabilité et après vous êtes tombé amoureux, j'aime le dire ainsi, de l'écriture. Donc vous écrivez, vous avez dit tout à l'heure, vous écrivez partout. Dans le bus, dans le train, partout, vous écrivez, vous notez, vous réfléchissez. Alors, que pouvez-vous dire pour qu'on termine cette interview? Les gens vont certainement chercher à acheter vos livres, à comprendre votre réflexion, comprendre ce que vous voulez.
Quand vous lisez mon livre, c'est une phrase, élever le débat. C'est fini. Je dis le problème, ce que je fais au monde, c'est élever le débat. Mais je n'ai pas besoin de le dire parce que tout le monde essaie d'élever le débat. C'est une compétition de celui qui va élever le débat le plus haut. Au Congo, je dis, on doit élever le débat. Et je condamne beaucoup la presse. La presse doit commencer à poser un challenge. Il doit avoir un autre contre-élite même de la presse. parce qu'il y a des choses où je vois deux personnes parler et il y a le journaliste, vous vous demandez si le journaliste est plus idiot que les deux, que les deux fous. Alors je dis aux Congolais, je dis, première solution, on élève le niveau de débat. Et parler de renouvellement de la classe politique, c'est de la foutaise. Et les deux, le débat, il y a, je répète, il y a des gens qui peuvent vous faire 200 mètres en 10 minutes, le record, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas faire le marathon. Et le marathon, sur le plan économique, scientifique, de pensée, c'est le marathon. Le sprint, on le fait maintenant. On parle de petites idées, les accords de Saint-Sylvestre, qui n'a rien à voir avec le social. Encore, les gens peuvent se perdre, c'est ce que je dis, élever le débat.
Et vous avez plusieurs destinations après le Congo?
Oui. Je vais, je quitte le Congo, je vais en Zambie, je vais au Zimbabwe, je suis un peu pessimiste du boom économique en Mozambicain, et il y a des gens qui m'ont invité là-bas pour me prouver que c'est pas ce que je pense, mais je vais voir. Après ça, je fais l'Afrique du Sud, et même si dans tous ces pays, je dois avoir certains visas, mais c'est un problème encore élitiste, quoi.
Merci d'être passé à Radio Okapi et bonne suite ou bonne chance dans tout ce que vous allez continuer à faire.
Merci.